18h16, je vous rappelle qu'on va finir l'émission avec Catherine Beauchamp et Christian Bégin qui va venir nous parler de la reprise des tournages de son émission à Télé-Québec. Il y a du monde à Metz, pas évident de coordonner, disons, d'arrimer cette émission aussi festive avec les obligations de distanciation sociale. Bien, Christian va être là pour nous en parler. L'autre grosse nouvelle aujourd'hui, la grosse nouvelle aujourd'hui, c'est qu'à Montréal, il n'y aura pas de retour à l'école le 25 mai. C'est repoussé au mois de septembre. Et là, évidemment, ça pose toute la question de qu'est-ce qui se passe si, au mois de septembre, ben, il y a une recrudescence des éclosions de coronavirus et qu'on est obligé de fermer les écoles. Il va bien falloir, à un moment donné, recommencer à enseigner pour vrai à nos enfants, à nos élèves, et aussi à les noter, à s'assurer qu'ils continuent à progresser. On en parle tout de suite avec professeur Catherine Haec du département des sciences économiques de l'UQAM, spécialiste de l'économie de l'éducation. Professeur Haec, bonsoir.
Bonsoir.
Donc, est-ce que vous êtes de ceux et celles qui trouvaient que c'était inévitable qu'il n'y aurait pas de retour à l'école dans la grande région de Montréal le 25 mai?
Écoutez, quand on s'est parlé il y a deux semaines ou trois semaines, je me rappelle plus trop, là, je vous disais que j'avais des gros doutes sur la possibilité de réouvrir Montréal d'ici la fin de l'année. J'aurais aimé ça avoir tort, mais je réalise aujourd'hui que j'avais peut-être raison. Non, pas tellement surprise.
OK. Là, évidemment, les temps actuels et, disons, le retour à l'école, le vrai retour à l'école en septembre, ça pose des défis incroyables, très importants pour l'école québécoise. Le scénario où on retourne à l'école en septembre, mais qu'on puisse pas remplir les écoles à capacité, quelle sorte de défis ça pose pour l'école?
Ben écoutez, les plus gros défis là qu'on va avoir, c'est que il y a premièrement un défi d'inégalité au niveau des enfants. Il y a des inégalités immenses dans les apprentissages des enfants. Ils vont s'accentuer d'ici au retour en classe. On a plein d'études qui nous montrent la perte d'apprentissage qui se fait pendant l'été normalement. Donc là, on parle d'un arrêt de près de 5-6 mois, là. Donc, c'est sûr qu'on va avoir des inégalités importantes qui vont être creusées pendant l'été. Donc, les enseignants vont avoir à faire tout un tri dans quel enfant a pris du retard, quel enfant est correct. Donc, il va y avoir un gros travail qui va devoir être fait de ce côté-là, là.
Mais dites-moi, tantôt j'ai parlé au ministre de l'Éducation, M. Jean-François Robert, je lui ai demandé, est-ce que votre ministère a des scénarios, là, des projections qui montrent le retard chiffré que les élèves vont prendre avec ces mises sur pause de l'école? Il m'a dit que lui, c'est une réponse un peu, je dirais, là, diplomate, il a dit, écoutez, moi je travaille sur un scénario où personne ne va être laissé derrière. Est-ce qu'on peut quantifier le recul, les pertes d'apprentissage, oui, que les élèves vont avoir?
Oui, on sait que l'été, les apprentissages, les enfants perdent l'équivalent en moyenne d'un mois d'apprentissage scolaire dans l'année. Donc, en deux mois, ils perdent un mois. Cette moyenne-là cache des différences importantes selon le statut socio-économique de la famille. Là, vous ne serez pas surpris. De penser qu'il n'y aura pas d'écart qui se sont agrandis, c'est un peu farfelu, là.
Ben, en fait, je veux pas dire que le ministre pensait pas que ça allait arriver. Je pense qu'il voulait pas aborder ça. Mais ce que vous dites, c'est que pour les élèves, là, qui sont dans la région de Montréal, qui ont cessé l'école il y a quelques semaines, qui vont reprendre chaud au mois de septembre, il y a des rattrapages, là, qui vont être absolument, effroyables.
Oui, déjà là, je publiais justement hier sur mon site web une étude sur les inégalités dans le système. Le système québécois est un très bon système, je dois dire. On doit être fier du travail qui est fait sur le terrain en général par les enseignants. Mais là, c'est sûr qu'avec le deux mois qui vient de se passer, où il n'y a pas vraiment eu d'enseignement qui a été fait, là, on s'entend, c'est plus de l'accompagnement, mais pas vraiment de l'enseignement. Il va y avoir des inégalités qui vont se creuser. Ces inégalités-là vont être importantes selon le statut socio-économique des familles. Puis je pense que malgré le fait que l'école reprend pas, selon moi, c'est le devoir des enseignants, des écoles, des directions de reprendre l'enseignement d'ici la fin de l'année à distance, juste pour voir où sont rendus les enfants, de faire un suivi plus concret là, de ce qui se passe vraiment dans la vie des enfants, pas juste un contact pour prendre des nouvelles, là, okay, plus que ça.
Professeur Haec, définissez-moi enseignement à distance, parce que l'enseignement à distance, ça peut être par Internet, ça peut être à la télé. Vous, quand vous me parlez de ça, c'est quoi?
Oui, ce qui fonctionne, là, il y a une super belle étude Je vous invite à aller voir le site de Phil Oreopoulos à l'Université de Toronto qui a fait un sommaire de tout ce qui a été trouvé par rapport à l'utilisation de la technologie en enseignement. Qui fonctionne pour les enfants, là, pour qu'ils apprennent, il faut qu'il y ait une rétroaction. Donc, envoyer du matériel, oui, c'est bien, mais ce qui fonctionne vraiment, c'est quand il y a une rétroaction. Donc, c'est sûr que les enseignants n'ont peut-être pas tous les outils pour vraiment donner des cours à distance, pas comme les profs d'université, par exemple, qui sont plus, ils ont plus les outils, on va se le dire, là. Donc, peut-être qu'on envoie des capsules, peut-être qu'on envoie des vidéos, mais après, on fait un appel Zoom, puis on revient sur le contenu, puis on s'en parle, puis on donne à l'enfant un objectif. C'est sûr qu'il y a des enseignants qui ont fait des super belles initiatives, là, Madame Marie-Ève, entre autres, mais ce n'est pas l'enseignant de l'enfant. L'enfant a un lien particulier avec son enseignant et c'est cet enseignant-là qui doit motiver l'enfant à continuer. Donc, il faut que ça vienne de chaque enseignant pour chaque enfant qu'il a. Il faut qu'il y ait une rétroaction. Il faut qu'il y ait plusieurs outils, là. L'étude en cite plusieurs. C'est sûr qu'il y en a plus en anglais qui ont été développés qu'en français, malheureusement. Mais je pense pas que ça demande une implication ridicule des enseignants. Ma fille, entre autres, a des super bons outils qui sont utilisés à son école. Et c'est des petites capsules de 5-7 minutes. Là, on parle pas des capsules de 4 heures par jour, là.
Mais écoutez, je vous posais la question parce que on faisait une entrevue, là, il y a deux jours avec un intervenant du quartier Montréal-Nord qui nous disait, écoutez, il y a une grande partie de la population de Montréal-Nord qui est pas abonnée à Internet. On va dans les bibliothèques, on va dans les lieux où il y a du Wi-Fi gratuit. Et lui, ce qu'il nous disait, là, M. Boussiki, c'est que il y a 30 % des parents d'élèves de la commission scolaire de la Pointe-de-l'Île qui ont une adresse courriel. Je veux dire, quand on parle de population vulnérable, c'est pas une vue de l'esprit de dire que c'est pas évident pour certains d'apprendre par Internet, là.
Effectivement. Et de ce côté-là, je pense que là, ça fait deux mois là, qu'on est là-dedans, on aurait pu regarder ce qui se passait en Ontario où on a distribué plus de 50 000 tablettes aux enfants défavorisés connectés à l'Internet pour qu'ils puissent continuer leurs apprentissages. Donc, ce n'est pas complètement ésotérique de penser fournir l'équipement informatique qu'il faut à ces enfants-là, sachant qu'on a réouvert les écoles dans le reste de la province. On pourrait mettre un accent sur la grande région de Montréal pour les enfants vulnérables.
OK. Pour septembre, est-ce que vous pensez que c'est de la science-fiction que le ministère de l'Éducation ait un plan B au cas où il faudrait refermer les élèves? Et ce plan B, ce serait de faire de l'enseignement à distance pour tous les élèves et de noter aussi les élèves à distance.
Écoutez, moi, je pense qu'il faut qu'ils se préparent à ça comme si c'était sûr que ça allait arriver. Les universités se préparent comme si on n'allait pas réouvrir parce que c'est le pire scénario et il faut être prêt pour le pire scénario. On n'a pas le choix. On ne peut pas abandonner les enfants. L'éducation, c'est un droit des enfants. Ils ont le droit de recevoir une instruction. Il faut s'organiser pour la leur donner.
OK, la solution, une solution hybride, un peu d'enseignement à distance, un peu d'école où on a juste la moitié des élèves pour respecter les règles de distanciation. Est-ce que c'est logique?
Ça, c'est une question que je me pose beaucoup, là. Je suis pas du tout certaine de c'est quoi le meilleur mode. Je pense aussi que ça dépend un peu des familles, comment elles sont organisées. Parce qu'une autre chose qui se passe en ce moment, c'est il y a des inégalités importantes. Là, je suis économiste, donc je me penche beaucoup sur le travail aussi. Au niveau du travail des familles, il y a des gens qui travaillent énormément en ce moment et d'autres qui travaillent à peu près pas. Donc, les capacités des parents d'accompagner leurs enfants sur une longue période sont très différentes. Donc, effectivement, une solution hybride comme on avait envisagé pourrait permettre aux parents qui travaillent beaucoup d'avoir l'enseignement qui est fait sur place parce qu'ils sont pas capables de faire le suivi. Et pour les parents qui ont la chance ou la malchance dans certains cas là, de pas avoir d'emploi et donc d'être à la maison, ben ils ont plus de disponibilité pour accompagner les enfants. Donc oui, peut-être, mais ça c'est une question que je suis pas certaine de c'est quoi le meilleur modèle. Puis j'y réfléchis beaucoup, mais pour l'instant, je suis pas sûre.
OK, professeur Hayek, vous avez deux enfants. Vous avez un enfant qui est au privé, un enfant qui est au public. Et oui. Racontez-moi les différences que vous avez vues en termes de suivi depuis que le Québec s'est mis sur pause.
Pour ma fille, c'est sûr que le suivi a été très bon, je dois le dire. Là. Puis je parle pas d'un suivi de 7 heures par jour, là. C'est vraiment pas ça. Mais c'est sûr qu'elle avait un suivi quotidien avec du matériel pour apprendre, pas juste pour reviser. Elle a appris des nouvelles choses. L'enseignante était très disponible. Elle lui enregistrait des vidéos pour lui dire « ben voici, t'as bien fait là-dedans, ça, tu pourrais t'améliorer. » Donc, il y avait une très belle complicité qui s'est formée entre l'enseignante et ses élèves. Et J'ai pas des outils particulièrement sophistiqués là qui étaient utilisés là, c'est juste vraiment des enseignants hyper ingénieux qui se sont mis en cohorte ensemble. Donc tous les enseignants du même niveau se sont coordonnés pour créer le matériel. Donc l'enfant reconnaissait chacun des enseignants. Donc dans un certain cas, ah c'est Madame Julie qui fait telle chose, ah c'est Madame une autre qui fait telle autre chose. Donc il y avait une association, donc elle se sentait interpellée par ce qui était demandé de la part des enseignants. Donc elle le faisait, puis elle le fait encore. Puis je suis pas du tout inquiète pour sa réussite d'ici à septembre. Au niveau de l'école publique, ce que j'observe dans mon entourage de manière plus large, là, pas juste mon fils, je dirais que ça se débat, là. Mais de manière plus large, je dirais que ce que j'observe, c'est que les parents sont très fâchés, ils se sentent largués. Donc oui, il y a des enseignants qui ont fait des miracles, puis je salue leurs efforts, puis j'adore le travail que les enseignants font. En général, je suis très impressionnée. Mais là, pour les deux derniers mois, je ne peux pas dire que j'ai été très impressionnée. Je pense qu'il faut se réveiller. On était en état de choc. C'est peut-être normal qu'on n'ait pas fait autant qu'on pourrait. Mais là, il est temps de se réveiller, là, parce que là, ça change pas. Il faut accompagner les enfants, puis envoyer un courriel sur une période de 2 mois. Puis ça, c'est pas l'expérience de mon fils, c'est d'autres expériences que j'ai autour de moi. C'est inadmissible. Ça se fait pas.
Ça tient à quoi, vous pensez que... Puis regardez, là, je vais faire la nuance, OK? Je sais qu'il y a beaucoup de profs qui se donnent, OK?
Oui.
Mais je sais aussi, dans le même registre là, de l'anecdote, parce que malheureusement, on n'a pas d'études empiriques. Là.
Non, mais on aimerait ça, par exemple.
Exact. Oui. Non, mais peut-être qu'on en aura une. Là. Sauf que, moi, j'entends aussi beaucoup, comme vous, là, beaucoup de parents qui disent « Mon enfant a très, très peu de suivi. » Ça tient à quoi que dans le public, on entend souvent ça ces temps-ci?
Bien, écoutez, je pense qu'il y a une combinaison de facteurs. Là. Il y a peut-être ce qu'on observe dans nos données, là, au début de la crise, quand le ministère de l'Éducation a fermé les écoles, on voit très bien dans les données du Labor Force Survey que les enseignants ont carrément arrêté de travailler la première semaine. C'était vraiment, ils le disent eux-mêmes dans l'enquête. Là. Donc, on le voit très bien et je pense qu'à ce moment-là, c'était vraiment un arrêt. Et après ça, c'est comme si le ministère avait jamais réenvoyé de directives claires, et peut-être que j'en ai manqué, là, excusez-moi si c'est le cas, de repartir la machine et d'enseigner, pas juste d'accompagner, mais vraiment de repartir l'enseignement. Donc, de mon point de vue, j'ai l'impression que cette directive-là a peut-être pas été énoncée de manière assez claire. Je pense qu'il y a aussi un problème au niveau du matériel, parce qu'ils ont fermé les écoles très, très rapidement. Les enseignants, peut-être que leur ordinateur était dans leur local de classe, donc ils n'avaient pas accès, ils ne pouvaient pas aller le rechercher pour faire le suivi dont qu'ils auraient aimé faire. Donc, il n'y avait pas les outils. Ceci étant dit, 2 mois plus tard, en ce moment, les enseignants, s'ils vont à l'école travailler, le 2 mètres de distance est amplement respecté, là, s'ils sont chacun dans leur local à faire le suivi, à créer du matériel. Donc, il n'y a pas de problème de distanciation sociale si seulement les enseignants sont dans les écoles. Donc là, aujourd'hui, dans un contexte où on n'est plus capable de réouvrir, je pense qu'il faut se poser la question là, de comment on s'y prend. Puis évidemment, il y a ce que vous disiez tantôt, là, du côté des parents, il faut fournir les outils technologiques aux familles défavorisées. Avec la connexion Internet, c'est ce qu'a fait l'Ontario.
Merci, professeur Haec.
Ça me fait plaisir.
Catherine Haec est professeure au département des sciences économiques de l'UQAM, spécialiste de l'économie de l'éducation. Après la pause, dans 2 minutes, 2-3 minutes, là, on va continuer à parler d'enseignement à distance avec Marie-Ève Lévesque, la fameuse Marie-Ève de la classe de Marie-Ève sur succès scolaire. Un grand succès en ces temps de confinement. On va faire le point avec elle.